cobuzz.com. Rencontre par Rémi Ferencio Goulari.
Bonjour à tous, fidèles auditeurs de Cobuzz. Une fois n'est pas coutume, nous sommes avec un créateur de player. Vous savez qu'un player, c'est ce qu'on utilise pour écouter de la musique sur notre ordinateur. Ce concepteur du player s'appelle Musici. Est-ce que je prononce bien ? Musici.
Musici,
je prononçais à l'italienne. donc Philippe Vatel.
Bonjour.
Bonjour. Nous sommes avec vous pour voir un petit peu quels sont vos services et comment ça marche, quelle est votre formation et votre parcours en général.
D'accord. Bon, je suis de formation plutôt mathématique et éventuellement ça m'a amené à faire de l'informatique dans plusieurs pays. Et je suis aussi mélomane et donc depuis l'âge de 30 ans, j'en ai 53, donc ça fait un moment. Et j'avais une collection de musique classique assez impressionnante. Et pour la faute de place, il a fallu digitaliser tout ça. Et je me suis aperçu, ça m'a pris quand même 2 ans et demi, je me suis aperçu à quel point pour la musique classique, ce qui existait, c'était vraiment pas terrible, terrible. Et je me suis dit qu'il y avait quand même quelque chose à faire là-dessus et que je ferais ça un jour pour moi. C'était pas nécessairement pour faire un produit. Puis tout d'un coup, j'ai eu du temps. Et on a décidé d'en faire un produit. Donc ça a été quand même un travail d'amour, un labor of love quand même. Et puis comme ça fait la musique classique, ben ça peut faire toutes les autres musiques, parce que c'est plus simple les autres musiques. Et on a essayé de faire quelque chose avec multi-bibliothèque, ce qui permet d'avoir une bibliothèque en jazz, en pop, en rock et aussi classique. Donc c'est pas uniquement pour la classique. D'accord. Et on a essayé de faire des compartiments, disons, dans les applications, c'est-à-dire si vous faites de l'editing de tags, c'est une chose, jouer, c'est une autre. Donc on a fait 4 applications, c'est pour ça qu'on l'appelle une suite, parce que ce n'est pas monolithique comme d'autres. Alors il y en a qui aiment ça, il y en a qui aiment moins ça, mais c'est beaucoup plus efficace.
D'accord, et quand vous dites que les services que vous utilisiez auparavant n'étaient pas terribles, quelles expériences avez-vous fait qui ne vous a pas plu et que vous aviez envie d'améliorer, justement ?
Mais déjà, au niveau des métadonnées, la logique de la pop, qui est par exemple un groupe, un album et des chansons, ça marche très très bien pour la pop. Pour la classique, ça ne marche pas du tout, parce qu'il y a des compositeurs, il y a des compositions qui sont dans un album. Même pour le jazz, c'est déjà comme ci, comme ça, parce que si vous avez Ella Fitzgerald et Louis Armstrong, qui est l'artiste, parce que l'artiste, c'est un chant. Donc, ça marche pas bien, quoi. Déjà au niveau des de la classification. Puis comment choisir ça ?
Vous pensez à un service en particulier qui vous aurait pas satisfait justement au départ ?
Tous. La plupart des programmeurs sont des gens relativement jeunes qui écoutent pas ce genre de musique. Alors donc, ils la connaissent pas. Déjà, puis c'est comme c'est beaucoup plus compliqué en plus, et que ça s'adresse à moins de gens, et en plus beaucoup de gens qui sont des dinosaures au niveau informatique, il n'y avait pas de demande. Donc. Enfin, on a une niche, mais je pense que j'ai eu beaucoup de témoignages de gens qui ont acheté notre application, qui disent enfin un truc où on peut catégoriser notre musique, surtout la classique, de manière comme il faut, quoi. Comme nous aimons le bon son, on a essayé que ça soit, enfin pour les audiophiles, c'est peut-être un mot anglais, pour les mélomanes, d'avoir un beat perfect, parce que c'est très important, c'est-à-dire ce que le fichier a, Ben, ça sort sur votre DAC. Donc déjà, plutôt... Alors, parce qu'il se passe sur Windows, il y a des histoires de re-échantillonnage, donc ce n'est pas du son pur. Donc on a fait un plugin qui fait que c'est... Donc c'est pour les gens qui aiment bien le beau son, mais ce n'est pas obligatoire, on peut faire ça avec le Windows Mixer. Après, au niveau de la sélection, ben oui, comme il y a des champs différents, on a une flexibilité vraiment énorme pour pouvoir choisir sa musique par époque, par instrument, par compositeur, par... En jazz, pareil d'ailleurs, hein, je veux dire, les métadonnées qu'on a sont les mêmes. Donc c'est pareil, si vous écoutez du sax, ben vous mettez saxophone, puis qu'est-ce que j'ai, etc. etc. Donc ça, mais bien sûr, ces métadonnées, elles viennent de quelque part, il faut les rentrer. Donc nous avons plein d'outils qui vous permettent d'accélérer la chose, parce que ça quand même, ça prend un peu de temps.
Alors quels sont ces outils justement ?
Ben, dans notre éditeur de métadonnées, le Tagger, nous avons une base de référence, surtout en classique, de compositeurs, d'interprètes et même de compositions. Donc ce qui permet d'accélérer la chose. Mais d'un autre côté, ça serait quand même super d'être capable d'acheter, surtout chez vous, enfin, des fichiers... déjà pré-tagué, ce qui permettrait à l'utilisateur de ne pas s'embêter à passer 10 minutes. Ça ne sert à rien. Enfin, si c'est fait déjà bien à la base. Le problème se poserait plus quand on veut ripper, c'est extraire ses CD.
Donc, selon vous, on peut avoir une base de données référentielles qui permettent de n'avoir plus besoin de renseigner soi-même le compositeur, l'interprète, le titre, quand parfois ça peut être renseigné de manière assez succincte, ne pas avoir à rajouter ces informations soi-même, mais à aller les chercher dans une base de données référentielle, par exemple sur FreeDB ou quelque chose comme ça, ou
c'est... Non, on a un FreeDB Amazon.
D'accord.
Donc déjà, quand vous mettez un CD ou quand vous sélectionnez un CD, s'il est dans FreeDB ou Amazon, il va le trouver. Mais tous ceux qui ont déjà fait cette expérience savent que la qualité des métadonnées, même Amazon compris, c'est à géométrie variable, surtout en classique. Donc, ce qu'on a fait, c'est au-dessus de ça, des outils de nettoyage, disons, avec des bases de référence, etc. etc. Donc, c'est surtout à ce niveau-là que... Et on aimerait bien faire peut-être un service... qui permettrait aux gens d'échanger peut-être faire un truc de communauté, déjà quand on a des métadonnées propres, de pouvoir les échanger avec d'autres utilisateurs. On est en train de regarder ça pour éviter la perte de temps, parce que souvent les gens qui ont un travail, qui ont des familles, leur temps libre c'est très précieux, et peut-être qu'ils n'ont pas envie de, ou ne peuvent pas faire l'étiquetage de leur CD.
Et donc concrètement, comment ça se passe? Vous avez quelqu'un qui renseigne chez vous ou... Parce que j'imagine que vous êtes, il y a peut-être d'autres personnes qui travaillent.
Je ne suis pas tout seul. Hein.
Donc, est-ce qu'il y a quelqu'un qui renseigne, ou alors comment sont créées justement ces données, ces métadatas?
Ben, nous, on les fournit quand les gens téléchargent ou la version d'essai, ou ils l'achètent. Notre base de données, elle est locale, mais d'accord, éventuellement, on aimerait faire un service internet ou faire les deux, parce que quand même, en local, c'est beaucoup plus rapide. Et nous fournissons en téléchargement sur notre site une nouvelle version de la base de données de référence tous les mois, donc ça grossit au niveau compositeur, œuvre et interprète.
D'accord. C'est une base de données qui est en pleine expansion et qui est enrichie au jour le jour, c'est ça ?
C'est ça.
Alors, ce qui est intéressant dans cette base de données, justement, c'est que vous avez un nombre de champs, enfin, en tout cas dans votre player, c'est qu'on peut afficher un nombre de champs incroyable. Si on compare, par exemple, à d'autres players qu'on ne citera pas ici...
Surtout
on a une possibilité d'affichage très large, c'est-à-dire pas seulement un champ qui renseignerait l'interprète, le compositeur, etc., mais vraiment une différenciation entre l'artiste, le nom de l'album, le nom du compositeur, et même parfois la période ou l'époque, voir la date d'enregistrement, le lieu, etc. Et ça, avec une possibilité de trier, selon ses propres envies, d'afficher l'un ou l'autre, ou tout, ou, enfin tout ou partie, quoi.
Oui, on essaye. Ben, ce sont des chants qui font du sens. Hein, au niveau, parfois, on a envie d'écouter du baroque, on a envie d'écouter du New Orleans ou du Dixieland. On a introduit un chant de temps, disons. Et de même que si vous avez un programme avec des librairies multiples, vous savez que vous avez une librairie classique. Donc de mettre comme genre classique, Ça, c'est un peu comme le peigne pour Yul Brynner, ça ne sert pas à grand-chose. Donc on a essayé de faire un genre qui est beaucoup plus précis, par exemple. On n'est pas obligé de s'en servir, hein. On force, justement, je pense que notre force, c'est que c'est très flexible. Donc chaque amateur peut faire ce qu'il veut. Mais on peut mettre musique de chambre, trio, plutôt que mettre comme genre juste classique. Donc parfois on a envie d'écouter du piano seul, ou un trio, ou une chanson.
Est-ce qu'il y a une capacité limitée de stockage dans ce player ?
A priori, non, puisqu'on utilise une base de données très costaud, mais qui est une très faible utilisation de ressources, qui est open source, qui s'appelle Firebird. On s'est amusé à faire jusqu'à à peu près 100 000, mais enfin bon, au bout d'un moment, c'est limité un peu par la vitesse de votre disque dur et de le CPU, le chip de votre ordinateur. Si vous aviez un vieux machin qui a 10 ans et que vous mettez 100 000 pistes, ça risque d'être un peu lent. Mais avec un truc rapide, moi, on fait tourner avec un petit netbook de 60 000, ça va très bien.
D'accord. Bon, donc
on pourrait s'amuser jusqu'à... Je crois qu'il y en a un qui s'amusait à le faire tourner avec 500 000, mais bon, il me dit que c'est quand même un peu lent. Mais 500 000, c'est une station de radio en Grèce, donc c'est énorme, je veux dire, ce qu'ils ont.
C'était... D'accord, donc c'est une station en Grèce, de radio en Grèce qui utilise ce service pour se diffuser aussi en tant que radio.
Je pense pas, je pense que c'est simplement au niveau de l'archive. Parce qu'en fait, pour une station de radio, il y a des softs particuliers au niveau de la programmation de la pub, au niveau des émissions, donc c'est pas pareil. Mais pour faire les archives de votre collection, ça marche très bien.
D'accord. Et ce player est compatible avec tout ordinateur? PC,
ça marche
Mac.
Que sur Windows, non, ça marche que sur Windows. Ça marche pas sur Mac. On y pense, mais c'est pas. Enfin, c'est pas qu'on peut directement porter tout le code de l'un à l'autre. Et ça pourrait prendre un certain temps. Donc, et le marché va très vite. Donc, si
et on qu'est-ce qui a fait que vous avez choisi plutôt Windows que Mac en l'occurrence ?
Les outils, c'est beaucoup plus facile de programmer un PC qu'un Mac. C'est beaucoup moins cher de posséder un PC qu'un Mac. C'est pas que j'ai pas de problème d'acheter un Mac, c'est pas le problème. Mais il y a beaucoup, il y a pas mal de gens qui ont des PC aussi. Enfin, je veux dire, Mac c'est très bien, j'en ai un aussi. Hein, mais pour jouer de la musique, l'idée en fait aussi du computer audio, c'est que l'ordinateur soit transparent pour avoir le meilleur son possible. Et puis si vous écoutez de la musique sérieusement, il ne faut pas faire votre courrier, faire votre thèse dessus en même temps. Donc en fait, c'est mieux d'avoir un ordinateur dédié pour la reproduction et que ça soit le plus transparent possible. Donc il n'y a pas de valeur ajoutée à avoir un ordinateur qui est plus cher. Moi, on a bidouillé un ordinateur nous-mêmes avec pas de ventilateur sur le processeur, un solid state drive. Pas de ventilateur sur l'alimentation, on a un truc qui a aucun bruit, ça marche très très bien.
D'accord.
C'est pour ça. Et puis il y a pas le support de FLAC qui est quand même un support qu'on aime beaucoup.
Oui. Mais là actuellement, votre player permet d'écouter jusqu'à quel niveau d'échantillonnage ?
380. Ça dépend du DAC que vous avez, mais on a fait un essai avec un fichier à 382. 85.2, ça marche très bien.
Un 85.2
385.2.
Ce qui commence à faire...
Oui, c'est monstrueux. C'est un exercice théorique. Je veux dire, encore que on a été surpris de voir à quel point un piano avait un autre son qu'avec un 1644, qui est le format CD. C'était hallucinant de voir qu'un piano devenait un piano. Mais c'est un exercice théorique. On ne trouve pas de fichier aussi gros. Mais moi, j'écoute souvent du 96 ou du 192 sans problème. Mais c'est pareil, si vous avez un DAC qui n'est pas au niveau, on ne pourra pas le sortir. Mais notre application le joue sans problème.
D'accord. Et tous les types de fichiers sont pris dans ce player ? Sont acceptés ?
La plupart, c'est-à-dire les plus populaires. En ce sens, il y a MP3, il y a le MP4, le M4A, je dis en anglais, M4A de Apple... En lossless ou non, WMA de Microsoft, lossless ou non, et FLAC. Donc c'est les trucs, et APE aussi, APE.
Donc à la fois la qualité illimitée, on peut dire, puisque 385.2, je ne vois pas pour l'instant, même théoriquement, de niveau plus élevé, et tous les types de fichiers sont acceptés par ce player.
Tout au moins les plus populaires.
Les plus populaires en tout cas. Et ce qui laisse quand même une marge de manœuvre assez, assez considérable. Alors, c'est un service qui n'est pas gratuit.
Non, il faut bien manger.
Il faut bien manger, effectivement. Et comment s'échelonne... Enfin, quelles offres de prix est-ce que vous proposez pour ce player ?
Ça vaut entre 39 et 49 euros. Ça peut être...
Avec un échelonnement des offres ? Comment cela...
Non, on a fait un prix de lancement.
Et trois versions, c'est ça ?
On a trois versions, mais la petite, c'est simple. Ah oui, j'ai oublié. On a une édition, ce qu'on appelle portable. C'est-à-dire qu'on peut configurer une clé USB ou un disque USB, installer un player spécial dessus, et puis vous pouvez aller dans n'importe quel autre PC. Sans installation, vous branchez votre USB, et puis si c'est branché sur une stéréo, vous avez toute votre musique comme à la maison. Donc ça, on le vend séparément. Je ne peux pas dire que c'est un succès commercial terrible parce que les gens achètent tout généralement. Donc en fait, on a une version studio où il y a juste la version pour la maison sans la portable. Et puis il y a la version Ultimo où il y a tout ensemble et c'est généralement ce que les gens prennent. Mais c'est très pratique ça. Vous pouvez avoir tout mettre sur un petit ou un grand USB. Maintenant, il y a 1.5 Tera et puis vous baladez avec. Et avec un câble audio, n'importe qui a un PC, vous allez à la campagne et puis vous avez votre musique entière. Donc, c'est bien. Thank you.
on comprend un peu ce que vous avez voulu faire, bon, l'idée de pouvoir à la fois écouter, organiser tous ces fichiers, ces informations aussi qui concernent les fichiers. La sauvegarde des métadonnées qui sont inscrites dans le fichier.
Oui.
La possibilité également de pouvoir paramétrer ces librairies différentes, enfin les librairies, ces bibliothèques si on veut. Mm-hmm. La notion de qualité des fichiers, etc. On comprend bien votre service. Comment vous voyez maintenant l'avenir de ce que vous avez créé et ce que vous pouvez en faire au-delà même de l'utilisation, disons, personnelle? Comment vous voyez maintenant le développement de ce service?
Le développement de ce... Enfin, une chose que je voulais mentionner, c'est que justement pour rendre à l'utilisateur sa liberté, toutes les choses qu'on voit dans la bibliothèque, qui n'est en fait qu'un index de vos métadonnées, sont aussi écrites dans le fichier. C'est-à-dire que si vous perdez le fichier de librairie, ce n'est pas grave du tout. Si vous bougez vos fichiers, vous ne perdez pas du tout votre travail. Donc vous pouvez l'utiliser dans ce fichier dans d'autres players. Donc c'est un peu la vision open source qu'on avait. On ne voulait pas du tout forcer. Parce que ça m'est déjà arrivé de mettre des tas de classements sur des... Et puis c'était dans le fichier du player en question. Et puis après, c'est tout perdu. Donc ça, on ne perd pas ça. On respecte le travail des gens. Maintenant, l'avenir, écoutez... Si j'avais une boule de cristal, peut-être que je jouerais aux courses.
Surtout par rapport, disons, à tout le développement de la musique en ligne actuellement. Bon,
il semblerait
effectivement, votre volonté au départ, c'était de se dire, j'ai 2000, 3000 CD chez moi, je les ai numérisés, maintenant ils sont disponibles dans ma bibliothèque. Bon. Une fois qu'on a fait ça, on a sa bibliothèque, on a pu télécharger aussi les fichiers, les acheter sur Internet parfois, les synchroniser, etc. Donc évidemment, il y a tout le contexte de la musique en ligne en général. Et comment vous vous situez par rapport à ça?
On voit de plus en plus, là je reviens du Midem, que le CD éventuellement est un médium un peu moribond. Donc, s'il y a de plus en plus de fichiers, il faut les organiser. Donc, notre application, vous n'avez pas besoin d'autres outils. Je veux dire, il y a un Reaper, il y a un éditeur de tags, il y a un player. Donc, pour la gestion de votre musique dématérialisée, vous n'avez besoin de rien d'autre. C'est assez complet. Bon, éventuellement, je pense que de plus en plus de gens vont passer à ce genre de médium. D'ailleurs,
Est-ce que vous avez testé, justement, le Qobuz Desktop,
notre nouveau
player?
Oui, c'est bien.
Vous l'avez testé?
Oui, mais je préfère le mien, parce que c'est le mien. Non, c'est pas parce que c'est le mien, mais je veux dire, c'est... le point de vue n'est pas le même. Il y a des tas d'angles. Je veux dire, moi, je m'adresse à des gens qui ont un collectionneur qui a ses fichiers chez lui. Donc, il n'y a pas besoin nécessairement d'avoir l'Internet. Parce que cette notion d'avoir la connectivité partout... Bon, ok, mais des fois, ça ne marche pas toujours, surtout dans les pays où la technologie n'est pas top. Donc, c'est bien d'avoir ces fichiers chez soi et de pouvoir les jouer, les organiser d'une manière très flexible. Donc, c'est complémentaire. Il n'y a aucun problème. Mais au niveau de l'accroissement, je pense que le... Bon, bah, déjà, j'aimerais que ça se vende de plus en plus. Ça serait super si on pouvait devenir une référence parmi les players, comme il y en a plein d'autres. Hein. Il y a Winamp, iTunes, etc., etc. Et puis, je pense qu'il y a un gros travail à faire au niveau de l'industrie, justement, de l'étiquetage. Parce que surtout dans la classique et le jazz, c'est mieux, mais bon... Ce qui fait que les gens n'ont pas le temps. Donc ça, on pourrait créer des services ou de communautés pour échanger ses propres métadonnées. Mais encore, il faut faire un peu attention, il faut chaperonner tout ça. Parce que quand vous regardez FreeDB, ça a été fait par des gens bien... Mais des fois, il y a n'importe quoi. Donc c'est une question de gestion de qualité.
C'est un peu effectivement l'enjeu qui est derrière chaque... Quand on distribue un fichier numérique, quel qu'il soit, effectivement, si on laisse la possibilité à une... évidemment, c'est un peu l'enjeu de l'Internet, mais de laisser à d'autres la possibilité d'enrichir, il faut pouvoir contrôler derrière.
Oui.
Et c'est ça, effectivement,
un enjeu. Où est-ce qu'on met la ligne, disons?
Effectivement.
Entre le contrôle et la liberté.
Si on voit une date d'enregistrement pour un concerto de Mozart, je ne sais pas moi, par Clara Askill, par exemple, mm-hmm. et qu'on voit cette date qui est complètement erronée, Est-ce qu'on se permet de... Comment on fait pour intervenir
Mais
sur
déjà,
ce champ-là
si vous l'avez déjà, cette donnée, c'est déjà bien beau, parce que la plupart du temps, les années qui sont données sont les années d'issue du CD. Donc si ça a été réédité, vous aurez que la Raskill en mis en 2012. Hein. Donc voilà. La date d'enregistrement n'est pas du tout... Il y a un effort dans l'industrie qui s'appelle Didex. C'est un consortium... Mais ils ne sont pas encore arrivés, mais c'est un effort très, très bien, très louable, d'essayer tout au moins de rationaliser l'information, surtout entre les labels et les distributeurs. Par contre, entre les distributeurs et les auditeurs, hein, c'est pas encore très clair. Donc, il y a encore du boulot.
Il se trouve que certains collectionneurs, parfois, sont des vraies mines d'or et qui savent exactement repérer... la bonne information de la fausse, voire même parfois donner des informations que personne n'a par ailleurs.
Tout à fait.
Et que, effectivement, ces gens-là sont des ressources tout à fait pertinentes pour créer une base de données. Mais enfin bon, ce n'est peut-être pas notre sujet.
C'est très lié.
Comment, voilà, effectivement.
Mais on peut créer une communauté, on peut créer quelque chose autour d'une application. C'est très lié parce que mauvaise métadonnée. Difficile de sélectionner votre musique, et puis perte de temps pour celui qui doit chaque fois l'étiqueter proprement, donc c'est un peu tout lié, tout ça. Non, c'est tout à fait pertinent.
Bon. Et sur vos goûts personnels, vous êtes plutôt porté vers... Vous avez plutôt classique, plutôt jazz, vous êtes un collectionneur invétéré, vous collectionnez toujours
Oui.
Du CD
Non, le CD, je ne veux plus y toucher de ma vie. Je refuse d'acheter des CD.
Du vinyle, peut-être ?
Non, parce que c'est un très bon son, le vinyle. Le problème, c'est que ça demande un entretien tellement difficile, et au bout d'un moment, on entend scratch, plus que la musique. Et je pense que maintenant, avec les fichiers haute définition, dont vous avez pas mal, d'ailleurs, j'aimerais bien faire une écoute à l'aveugle avec un vinyle et de bonne qualité et un studio
Master.
À 96 000 ou 192 000. Et j'aimerais vraiment voir... si l'analogue gagne. Moi, je n'y crois pas une seconde. Je pense que le digital, ça serait très, très bon.
Et donc, qu'est-ce que vous collectionnez ?
Personnellement, mais enfin bon...
Ça m'intéresse à titre savoir quels sont vos goûts.
Je préfère la classique, et je préfère la classique jusqu'à un certain moment, c'est-à-dire que la musique contemporaine, j'ai beaucoup de mal, donc je suis un peu dinosaurien au niveau de mes goûts. Jusqu'à Brahms.
Les enregistrements historiques ?
Problème des enregistrements historiques, c'est que le son n'est pas génial. Les interprètes peuvent être extraordinaires. Alors, si on peut trouver à interprétation égale une version moderne, je préfère la version moderne. Maintenant, parfois, il y a des trucs qu'on ne peut pas substituer. Enfin, il y a une boîte qui a créé une technologie intéressante qui permet, sur du piano, de préparer des pianos, qui s'appelle Zempf, je ne sais pas si vous connaissez, qui en fait, ils préparent un piano et en mettant un vieux disque, ils arrivent à faire jouer le piano. Donc il y a Rachmaninov qui joue Rachmaninov. C'est Rachmaninov
lui-même.
Oui,
effectivement, oui.
C'est assez extraordinaire.
Une sorte de simulation du pianiste d'origine en train de rejouer sur un piano moderne.
Ouais. Et éventuellement, ils arriveront à un truc... C'est déjà super bien. Mais, donc il y a une version de Glenn Gould des fameux Goldberg de 1955... C'est assez impressionnant au niveau qualité sonore. Est-ce que j'ai les deux, hein, donc je peux voir. Mais à tout prendre, si on peut prendre un meilleur son qu'un mauvais son. Maintenant, il y a des, comme vous avez mentionné, Clara Askill, elle est tellement sublime dans ses concertos de Mozart. On a difficilement fait mieux, donc on écoute du 1960. Enfin, il y en a d'autres comme ça, il n'y a pas qu'elle. Hein. Mais un bon fichier Studio Master, c'est quand même très très bien.
Eh bien, je crois que ce sera le mot de la fin en ce qui nous concerne. On a bien compris votre message. Merci donc Philippe Vatel d'être venu
nous
parler dans ces studios. Et on espère vous retrouver très bientôt et on va se précipiter sur votre site internet. Merci beaucoup.
D'accord.
cobuzz.com. Rencontre par Rémi Ferencio Goulari.